Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'info locale et régionale sur Calade. Au sommaire de notre édition, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, ainsi que la publication de son rapport 2020 sur les LGBT-phobies de l'association SOS Homophobie, nous avons joint par téléphone Maxime Larcher, co-délégué de SOS Homophobie Lyon. Calade, le journal. Principale nouveauté de l'année, des millions de contribuables ont accès à une déclaration automatique et en raison de la crise sanitaire, le calendrier de la déclaration d'impôt a été revu. Depuis le 1er janvier 2019, l'impôt est recouvré au fil de l'eau, des retenues à la source sont effectuées sur les revenus versés par des tiers, comme les salaires, les pensions de retraite ou les allocations chômage, et des comptes sont prélevés directement sur le compte des contribuables pour les revenus sans tiers collecteur, bénéfices professionnels, revenus immobiliers, pensions alimentaires, etc. Il ne s'agit toutefois que d'une avance sur l'impôt à payer. Le prélèvement à la source ne dispense pas de déclarer chaque année ses revenus de l'année précédente. L'administration fiscale a besoin de calculer l'impôt définitif et les éventuels crédits et réductions d'impôts, comme avant. Jusqu'au 30 juin pour certains. Les dates limites sont les 4, 8 ou 11 juin pour la déclaration en ligne, selon les départements, et le 12 juin sur papier. Le formulaire a été envoyé par courrier seulement à ceux qui avaient déposé une déclaration papier en 2019. Les autres y accèdent via leur espace personnel sur impots.gouv.fr. Attention, les dates imprimées sur les documents papier édités avant le confinement ne sont plus d'actualité. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, la date limite de dépôt des déclarations professionnelles ont été reportées au 30 juin. Les cabinets d'expertise comptable étant très sollicités par leurs clients pour la mise en place des prêts garantis et du chômage partiel. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, la date limite de dépôt des déclarations professionnelles a été reportée au 30 juin, dû, expliquent les cabinets d'expertise comptable, aux sollicitations de leurs clients pour la mise en place des prêts garantis et du chômage partiel. Conséquence, les particuliers déclarant des bénéfices professionnels ou des revenus de sociétés civiles immobilières ont aussi jusqu'au 30 juin pour déposer leur déclaration. S'ils passent par voie dématérialisée, précise la Direction générale des finances publiques. L'importante progression des agressions physiques déjà observée en 2018 ne s'est pas inversée, bien au contraire. En particulier, les témoignages d'agressions physiques transphobes ont plus que doublé en 2019. Insultes, harcèlement, humiliations sont malheureusement des réalités quotidiennes pour les personnes trans. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, ainsi que la publication de son rapport 2020 sur les LGBT-phobies, de l'association SOS Homophobie, nous avons joint par téléphone Maxime Larcher, co-délégué de SOS Homophobie Lyon.
On parle effectivement depuis plusieurs années de LGBT-phobie et c'est par le fait de visibiliser ce que subissent les personnes LGBTI dans leur ensemble que ça nous permet de décliner des actions de prévention.
D'accord. Et on peut dire effectivement que SOS Homophobie, dans ses missions et plus particulièrement évidemment surtout les sujets qui peuvent porter à discrimination, c'est ça, je résume un petit peu ?
Sur tous les sujets liés à la discrimination autour de l'orientation amoureuse ou de l'identité de genre.
Très bien. Maxime Larcher, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est pour cette année 2020 de ce rapport, qu'est-ce qu'il ressort en tous les cas ?
Malheureusement, on aimerait bien que ce rapport n'ait plus lieu d'être et que nous-mêmes nous n'existions plus. Mais il y a quand même un chiffre fort, c'est une hausse de 26% par rapport à 2018, ce qui nous fait revenir à un niveau de témoignages, de nombre de témoignages reçus propre à l'année 2013, année des débats sur le mariage pour tous, où la parole homophobe s'est particulièrement libérée. Et deux grands faits principaux, c'est le fait de l'attaque auprès des couples de jeunes femmes, en tout cas des femmes lesbiennes dans l'espace public, par ce qu'elles représentent, sont une cible pour les personnes homophobes, et également une augmentation très forte des déclarations d'agression physique envers les personnes trans qui, pour lesquelles la parole se libère. On parlait d'invisibilité des personnes trans et là, petit à petit, on commence à voir la réalité de ce que ces personnes subissent. Après, les chiffres sont une chose, mais ce qui est important pour nous dans le rapport que l'on fait, parce que ce rapport est basé uniquement sur les témoignages de témoins de victimes reçus, Donc il n'a par nature pas vocation à être exhaustif. En revanche, c'est le côté qualitatif des choses, puisqu'effectivement, quel est le visage de l'homophobie en France en 2019 par ce rapport qui sort en 2020?
Alors, quelles sont effectivement, comment dirais-je, vos impressions en tous les cas par rapport à ces différents témoignages et notamment les actes commis sur la voie publique en règle générale? Comment, voilà, ces raisons effectivement que peut-être d'agressivité envers d'autres personnes, est-ce que ça peut s'expliquer?
Comment ça peut s'expliquer? En fait, il y a un double phénomène qui est à la fois intéressant, mais aussi préoccupant. Intéressant par le fait que les personnes homosexuelles sont de plus en plus visibles dans l'espace public, de plus en plus visibles dans les débats publics, de plus en plus visibles elles-mêmes dans la société. Et donc, du coup, par ce fait-là, elles prennent la parole, elles se désinvisibilisent. Et donc, du coup, ce qu'elles subissent ressort. Et ça, c'est plutôt salutaire. Il faut noter quand même que selon les sondages officiels, là, pour le coup, faits sur la base de critères de quotas, donc là, qui sont exhaustifs, montrent qu'en fait, seulement 20% des personnes qui sont victimes d'agression ou de discrimination portent effectivement le sujet auprès des associations comme SOS Homophobie. Et seulement 3 à 4% des personnes portent plainte réellement. Donc en fait, il y a ce côté libération de la parole, visibilisation des personnes LGBTI. Ça, c'est un formidable. Il faut le valoriser parce que si on invisibilise ces paroles, on n'existe pas et donc les actions ne peuvent pas se mettre en place parce qu'en fait, on nous dirait bah, il ne se passe rien. Mais par rapport à ça, la persistance des chiffres et l'augmentation de ces chiffres, c'est aussi malheureusement le signe qu'il bah, y a une homophobie en France qui s'ancre et qui se radicalise un petit peu, je trouve, en termes de force des agressions, puisqu'en fait, les agressions physiques sont toujours à un très haut niveau et souvent assez violentes. Et ça, c'est problématique. Mais c'est le signe, finalement, que dans une société qui est de plus en plus inclusive, eh bien, les franges les moins tolérantes avec cette inclusivité, eh bien, ces personnes-là ont des actions de plus en plus violentes. C'est, j'allais dire, plus de droits et plus d'inclusivité en société, mais malheureusement, une partie de la population qui refuse cet accès aux droits et cette inclusivité, qui va être de plus en plus stricte dans son jugement de la présence de ces personnes-là dans leur environnement. Mmh. Et donc, du coup, ces personnes-là spécifiquement, finalement, vont être plus violentes.
Alors, autre chose peut-être que vous avez remarqué dans ce rapport, hein, en le lisant, c'est que les mesures de confinement ont peut-être permis un développement un petit peu plus important, effectivement, de victimisation de ces personnes, c'est ça, en quelque sorte?
Oui, en fait, la particularité du confinement, c'est qu'en fait, sur des situations, et en particulier d'homophobie intrafamiliale qui étaient préexistantes, hein, c'est pas le confinement qui les a créées. Par contre, sur des situations qui étaient déjà préexistantes, puisqu'en fait, ce sont des situations dans lesquelles les familles ne sont pas inclusives, il y a des problématiques de relationnel avec les enfants, dans le cadre d'une question liée à l'identité de genre ou à l'orientation amoureuse. Dans ces cadres-là, en fait, le confinement a créé des climats propices à l'extension des violences. Tout comme l'extension des violences faites aux femmes dans le cadre des couples qui avaient un terreau compliqué déjà avant même le confinement a exacerbé ces violences. Et c'est en ce sens-là que c'est compliqué, parce que en fait, ça fait ressortir la difficulté pour ces personnes-là à sortir du cadre familial, d'autant plus qu'avant, ils et elles avaient peut-être des occasions de sortir par l'école, par le travail, par, je ne sais pas, autre activité associative qui leur permettait de prendre un peu de recul et de finalement vivre un peu mieux ces relations difficiles en famille et qui, là, en l'occurrence, se voient coupées de toutes leur distraction et la famille homophobe autour étant présente, eh bien, la situation devient de plus en plus difficile et ça porte des passages à l'acte intrafamiliaux qui peut-être n'auraient pas eu lieu autrement dans une situation, on va dire, normale, quoi.
Maxime Larcher, vous rappeliez tout à l'heure effectivement l'importance de porter plainte, bien évidemment.
Il est primordial que les personnes qui sont victimes d'agressions physiques et d'agressions verbales ou de discrimination portent plainte et portent ça à la lueur de la justice. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est les chiffres de la justice qui sont également auscultés par le gouvernement pour mettre en place des actions. Et c'est par ce biais-là aussi que, quelque part, il y aura des capacités de faire cesser toutes ces violences. Et d'autre part, et particulièrement sur la région, la grande région lyonnaise, on va dire, autour de Lyon, et parce qu'en fait, une convention a été signée en février entre le centre LGBTI+ de Lyon, l'association SOS Homophobie et tout un tas d'acteurs publics, donc Éducation nationale, toutes les forces de police, de justice, les villes de Lyon, Villeurbanne et la métropole de Lyon, donc le Grand Lyon et à l'échelle plus large le 69, eh bien, ont signé une convention multipartite d'action contre les LGBT-phobies. Donc il y a des volets de communication, de prévention, mais aussi de répression, à la fois par les forces de police justice qui sont là pour assurer l'ordre, mais aussi par l'intermédiaire et l'entremise du procureur à faire en sorte d'avoir une tolérance zéro dans le cas des dépôts de plaintes faits à ce motif-là, qui est un facteur aggravant, je le rappelle, en termes de plainte. Et pour le coup, maintenant, le Centre LGBT+ de Lyon et SOS Homophobie disposent, en cas de souci pour l'application du droit, en particulier pour un dépôt de plainte, par exemple, un refus de dépôt de plainte, quelqu'un qui aurait été mal reçu, maltraité, dans le sens, pas maltraitant, ça, mais maltraité dans son parcours administratif et judiciaire, à commencer par le dépôt de plainte en commissariat, nous avons un contact particulier avec un référent qui nous est donné en tant qu'association représentant les personnes LGBTI pour pouvoir faire la lumière sur des problématiques et les résoudre de manière à avancer vers plus de droits et plus de justice, parce que le droit existe pour la lutte contre les discriminations, sauf qu'il s'agit de bien l'appliquer correctement.
D'où l'importance effectivement de ce rapport tous les ans, hein, je crois, de le refaire monter aux personnes concernées, en tous les cas du côté de nos décideurs, hein, c'est bien ça?
Exactement, et c'est bien l'objectif, on le diffuse effectivement à l'ensemble des pouvoirs publics, les pouvoirs de police, enfin tous les organes de la direction de notre pays, on va dire. Et le fait que notre rapport existe depuis des années, comme je le disais, outre la comparabilité des chiffres, qui est un peu compliqué parce qu'en fait, la simple visibilité de l'association fait que les chiffres peuvent augmenter, mais malgré tout, il traduit une ligne de fond, et qualitativement, il montre également sous quelle forme se traduit cette homophobie, permettant de mettre en place des actions ciblées, que ce soit sur le domaine familial, l'espace public, la vie en famille, le monde du travail, le monde du sport, le monde des médias, puisqu'en fait notre rapport reprend ces éléments classés par thématique et également par type de LGBT-phobie, entre la gay-phobie, la biphobie, la transphobie, qui permet d'en avoir des analyses assez précises, assez justes, qui vont bien au-delà des chiffres. Et c'est ça qui est important, effectivement, si on veut traiter un problème, il faut le connaître un peu dans les détails, quantitatif certes, mais surtout qualitatif, pour mieux s'attaquer au sujet, parce que on ne traite pas de la même manière toutes les discriminations et toutes ces agressions.
Alors, ce rapport est publié, le public peut tout simplement le consulter, c'est possible, et où?
Oui, tout à fait. Alors, le rapport est disponible sur le site internet de SOS Homophobie, donc sos-homophobie.org, à l'article nos documents, nos publications, rapport annuel. Et donc ça, c'est une version numérique téléchargeable gratuitement. Et il y a également une version papier qui est disponible sur commande au prix de 10 €, si vous voulez l'acheter. C'est toujours un soutien aussi à l'association. Moi, ce que je peux aussi enjoindre vraiment tous les auditeurs et toutes les auditrices, c'est que qu'ils soient témoins ou qu'ils soient victimes, c'est de ne rien laisser passer au quotidien en termes de réaction, parce qu'en fait, c'est le silence parfois qui permet à des situations de s'envenimer, parce que l'agresseur se sent, ou l'agresseuse, se sent en position de force parce que finalement, personne ne réagit. Mais si c'est l'ensemble d'un groupe qui réagit en disant « Tiens, viens avec moi, on va aider cette personne », parce qu'effectivement, tout seul, on ne peut pas y aller forcément, et question de mise en sécurité aussi, et ça, c'est bien important. En tout cas, si chacun et chacune peut réagir, c'est déjà œuvrer à son niveau. Et puis, en étant témoin aux victimes également sur un deuxième niveau pour faire remonter ces problèmes-là, eh bien, c'est une action importante également à mener. Voilà. Après, si je peux faire un dernier appel, c'est qu'effectivement, SOS Homophobie, par ses actions de prévention en milieu scolaire ou milieu professionnel, recherche en permanence des bénévoles, puisque nous sommes tous bénévoles, toutes et tous bénévoles, et que sans bénévoles, nous ne pouvons pas agir concrètement contre cette haine, et en tout cas agir sur le plan de la prévention, c'est indispensable, et c'est par l'action des bénévoles qui sont disponibles en semaine, mais peut-être parfois quelques heures, parfois dans l'année ou dans le mois, on saura les accueillir avec grand plaisir.
Dans ce contexte, SOS Homophobie appelle les pouvoirs publics à agir contre toutes les violences et pour l'égalité des droits sans plus attendre. SOS Homophobie réaffirme sa détermination et sa mobilisation pour défendre le droit pour chacun, chacune, de pouvoir vivre et aimer librement et sereinement, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre. fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.